Bonjour à tous, je suis Laura, votre co-chef d'orchestre pour ce nouvel épisode Freelance Love Stories. Je suis accompagnée dans cet épisode de Natacha, chef d'orchestre en devenir pour de prochains épisodes. Et oui, l'exercice du podcast n'est pas aussi facile que ça n'y paraît. Et c'est toujours bien d'être accompagnée pour une grande première. C'est aussi un peu le cas de mon sujet du jour. Dans la vie, on idéalise beaucoup de choses. Et on idéalise notamment la vie de freelance. Pourtant, il est primordial de toujours avoir en tête les difficultés et contraintes de ce nouveau statut de travailleur, celui d'indépendant. On choisit d'être freelance pour avoir plus de liberté dans son planning, ses projets, son lieu de travail, le choix de ses clients et parfois même pour gagner plus. Mais gagner sa vie en tant qu'indépendant engendre aussi des actions à mener que de nombreux indépendants aimeraient tant éviter. Chercher de nouveaux clients, stabiliser ses revenus, difficulté d'accéder au logement quand son activité démarre ou fluctue. Et pour autant, on ne s'amène pas commercial comme ça. Qui plus est, une étude BCG Malte met en lumière que 72% des freelances ont vu leur activité impactée par la crise. Au moins une de leurs missions ont été annulées. Pour autant, ils restent confiants et motivés par le statut de freelance. Alors, comment on gagne sa vie? Comment on trouve ses clients quand on est freelance?
Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie.
Alors nous avons une idée.
Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert.
La prospection, le démarchage, un vrai casse-tête. Mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer l'homme de la situation. Un freelance qui s'est lancé en 2010 dans l'aventure et qui accompagne déjà depuis 2014 d'autres freelances à monter en puissance sur leur stratégie commerciale. J'ai nommé Jonathan Pass, incroyable coach connu sous le nom de Freelance Boost. Cet homme est passionné et passionnant. Il vous fait aimer le commerce et vous aide à développer une activité plus sereinement. Jonathan, je l'ai découvert dès 2015, quand j'étais dans ma seconde année de freelancing. Je me suis abonnée à sa newsletter. Elle m'a donné la pêche, de la confiance en moi, des outils et une méthode. De l'or en newsletter, mais aussi dans cet épisode. D'ailleurs, son meilleur conseil pour devenir un commercial winner est ma dernière question. Comme on dit, le meilleur pour la fin, allez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Vous comprendrez que quand je voulais parler de commercial, prospection, je n'avais qu'une personne en tête pour cette nouvelle danse, c'était bien Jonathan. Bonjour Jonathan, comment vas-tu?
Bah écoute, très bien. Écoute, je suis vraiment content d'être là et merci pour cette introduction qui me fait très plaisir, qui me motive à fond.
Bah c'est très sincère en tout cas, je suis ravie de faire ta connaissance dans la vraie vie après t'avoir lu pendant autant d'années. Je suis aussi la première fan de tes contenus, tu l'as compris, et je souhaite te remercier vraiment publiquement pour ta générosité et tout ton partage que tu fais depuis toutes ces années. Je sais que tu as connu aussi une petite période difficile, donc je pense que ça fait du bien pour rester motivé de savoir que bah, tu fais du bien à plein d'autres freelances. Je présente aussi et je te présente à tous nos auditeurs Natacha, notre co-chef d'orchestre pour cet épisode. Donc bonjour Natacha, est-ce que tu es prête pour te jeter dans le bain du podcast?
Bonjour Laura, ben oui, ça va très bien se passer, surtout avec un invité de cet acabit, donc je suis ravie de faire cette interview avec vous.
Bon, super, vous êtes bien réveillés puisque là il est 9h29, on est très matinal, on se retrouvait à Paris dans des bureaux proches de la Défense, donc ça nous a mis de bonne humeur, on va dire, de prendre les transports et tout. Pour commencer, Jonathan, du coup, peux-tu te présenter un petit peu, me raconter ton parcours, ce qu'on disait de toi peut-être quand tu étais enfant? Est-ce que voilà, ce parcours, cette carrière, tu étais prédestiné en quelque sorte? Tes expériences pro, quelles ont été? Et jusqu'au jour, j'aimerais bien que tu ailles jusqu'au jour où tu as décidé de te lancer en freelance.
Alors, en fait, enfant, j'étais plutôt, on va dire gentil, je dirais aussi un petit peu timide. Okay. Un petit peu timide. Alors, la particularité tu parlais de ce que j'étais destiné, c'est que j'aimais bien aider mes copains, mes copines en classe quand ils avaient une difficulté. J'aimais bien les aider. Ça, c'est un truc qui était en moi. Et je pense que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui j'aime accompagner les autres. Donc voilà, donc j'étais plutôt assez effacé. Au collège, j'étais même pendant une année, j'étais un peu sans amis. C'était un peu, c'est parti mon parcours. Donc plutôt timide, pas une très grande confiance en moi. C'est un peu lié un petit peu par rapport à mon père qui m'a pas vraiment valorisé. Voilà. Donc j'ai un problème de confiance en moi et vers 17 ans, j'ai vécu une expérience spirituelle qui m'a permis de mieux me connaître. Et en fait, j'ai découvert une partie de moi qui était que je suis extrêmement relationnel. Je suis assez atypique. Alors, par exemple, je suis un mix d'extraverti et introverti. Je rentre rarement dans les profils types, dans les tests. Mais je suis très, très relationnel. C'est-à-dire que je peux parler à n'importe qui très facilement. Alors, une de mes plus grandes forces, c'est de pouvoir aborder n'importe qui et devenir son pote. Quoi. Donc, ça fait partie de mon histoire. Au début, au niveau professionnel, je me suis dirigé vers le multimédia parce que j'aimais bien Photoshop. Je faisais des montages. Mais très vite, je me suis passionné du web. Donc, j'ai commencé à faire des créations de sites web. J'ai fait une licence pro, master pro en alternance donc pendant 3 ans. J'ai travaillé en association. Puis, j'ai travaillé dans une start-up. Et très vite, j'ai eu envie de devenir freelance. J'avais besoin justement de cette liberté de planning, de pouvoir, par rapport à mes priorités, mes envies, mes rêves, j'avais besoin d'être très flexible. Voilà, j'avais plein de projets, j'avais besoin de cette liberté-là. Et après un an en CDI, j'ai dit à mon patron que je voulais absolument devenir freelance. J'ai posé ma démission. Je ne réalisais pas que j'aurais pu avoir une rupture conventionnelle. J'ai posé ma démission. Aujourd'hui, je conseille bien sûr de ne pas faire ça, d'avoir la rupture conventionnelle pendant le chômage. Mais moi, j'ai fait le guerrier. J'ai sauté, je n'avais rien, aucun parachute. Et voilà, c'était parti.
J'ai fait exactement la même chose. Ah. Et je l'ai vraiment un petit peu regretté de ne pas avoir tenté la rupture conventionnelle. Ouais.
Moi, j'ai tenté la rupture conventionnelle et je ne l'ai pas eu. Ah. Bon, finalement.
Okay. ok, super. Bon, ben, c'est un parcours atypique, comme beaucoup de freelance d'ailleurs. Et j'ai fouillé un petit peu ton LinkedIn. Il y a une expérience sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes. Parce que, bon, je pense que tu le sais maintenant, Natacha et moi, on a choisi de rejoindre l'idée d'un collectif pour un petit peu vaincre la solitude qui est une des contraintes quand on est en freelance. Peux-tu nous raconter un petit peu ce passage? Qu'est-ce que vous faisiez ou qu'est-ce que vous faites encore?
Donc, au niveau du réseau Great, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait.
Alors, en fait, je ne sais plus exactement quelle année, ça devait être en 2013 ou 2014, j'ai fait appel à un développeur pour une mission et j'avais pas de développeur dans mon réseau. Du coup, j'ai cherché sur Twitter et j'ai trouvé quelqu'un qui avait un profil de manière publique extérieure. C'était le profil idéal. Il avait l'air très compétent et je pense qu'il était vraiment. Sauf que pendant la mission, il a disparu. Il donnait plus aucune nouvelle. Il réapparaissait et il redisparaissait. Et du coup, c'était un peu le stéréotype. Souvent, des gens ils disent certaines personnes se disent les freelances sont pas fiables. Et moi, du coup, j'aimais pas du tout cette idée-là. C'était une très mauvaise expérience pour moi et pour le client.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ce serait bien d'avoir un réseau où le critère numéro un, c'est la confiance, la fiabilité. Et donc, j'ai commencé, j'en ai parlé à un ami freelance que j'avais un petit peu aidé. Voilà, je lui ai proposé, il m'a dit, c'est une bonne idée. J'ai écrit un article sur Freelance Boost pour proposer l'idée. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont postulé. Ça a très vite démarré. Ouais. Et ça a très vite bien marché et ça répondait vraiment à un besoin sur la solitude. Donc, justement, on avait un Skype à l'époque, on chattait et eux, ils chattaient toute la journée, genre très souvent. Après, on est passé sur Slack et en fait, vraiment très dynamique, quoi. Ça interagissait beaucoup. On se voyait physiquement régulièrement. Voilà, on faisait des événements coworking, justement. Et voilà, donc vraiment, ça a tout de suite répondu à un besoin et c'était très dynamique. Et c'est devenu vraiment, je vais presque dire, une famille, hein, ouais. Des amitiés, etc. Alors moi, je me suis retiré parce que j'aime bien lancer plein de projets. Ce réseau existe toujours. Il reste hyper dynamique et voilà, si vous voulez aller voir, donc c'est le site, c'est Great avec 3 A.
Ouais. Merci Jonathan.
Et justement, tu disais voilà, que tu as commencé en freelance comme ça et que, voilà, que tu es sur plusieurs projets. Aujourd'hui, tu es passé à coach de freelance. Alors, c'est vraiment c'est quand même un changement de métier, on va dire, un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi et comment tu as fait ce switch, si tu appelles ça un switch?
Oui, donc ça a été assez progressif, mais je disais justement que enfant j'aimais bien aider les autres. Je suis quelqu'un de très relationnel. Et en fait, même quand j'étais en start-up pendant 2 ans, je disais à mon patron, vers la fin, j'étais lassé d'être assis devant un ordinateur et de faire des sites internet. Et je lui disais, est-ce que je peux aller dans l'autre salle? Il y avait une salle de développeurs et il y avait une salle de commerciaux. Lui, je sais pas, il a dû me prendre pour un fou, je sais pas. Et en devenant freelance, la première année, je me suis rendu compte, j'ai commencé à rencontrer plein de gens. Et c'est ça que j'aimais, en fait, rencontrer plein de gens. Et je continuais à faire des sites internet, mais progressivement, ça me motivait moins. Et ce que j'aimais, c'est aider les autres. Et après un an à peine, je crois, deux ans, j'ai commencé à proposer d'accompagner les autres. Alors, j'étais encore très débutant, c'était peut-être un peu prétentieux, mais moi, j'aime bien quand j'ai une idée, me lancer. Voilà. Je fais beaucoup d'erreurs, ça, c'est ma spécialité, mais j'apprends très vite. Et du coup, bah, je commençais à le faire, je commençais à proposer. Je pense qu'au début, les gens devaient se dire, mais c'est un débutant, comment il veut. Mais j'ai aidé d'autres personnes qui avaient des difficultés gratuitement et je commençais à apprendre comme ça. Et très vite, j'ai vu que c'était vraiment mon truc. Donc, progressivement, je l'ai fait. En lançant Freelance Boost, j'ai commencé à partager tout ce que j'apprenais. Donc, j'aimais énormément. Je commençais à avoir une audience assez rapidement, plusieurs milliers de personnes. Je commençais à suivre. Donc, voilà, j'ai pu commencer à lancer une formation en ligne avec mon associé à ce moment-là et faire un petit peu de coaching. Et alors, si je vais faire rapidement l'histoire, en 2017, je continuais à faire des sites internet et Freelance Boost, mais j'arrivais pas à faire décoller vraiment le côté coaching. J'ai fait une année sabbatique, j'ai fait le point et je suis revenu. Je savais que je devais vraiment me lancer à fond. Et là, je me suis lancé à 100%. C'était vraiment l'objectif. Et c'était pendant une année, c'était très difficile. J'en vivais tout ric-rac. Et il y a eu un moment clé avec mon associé. On s'est lancé à fond dans le coaching, justement. Ouais. Et là, on a eu un gros lancement d'une formation. On a eu un très gros chiffre d'affaires d'un coup. Et là, on s'est lancé à 100% sur le coaching. Et là, j'ai compris, c'est vraiment mon truc. C'est ce que j'aime le plus. Et aujourd'hui, je passe beaucoup de mes journées à coacher. Et ce qui me nourrit, c'est ce qui me motive de voir des gens progresser, se dépasser, se transformer. Voilà.
Alors, j'ai juste envie de rebondir sur un point. On dit souvent que les freelances, en gros, n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils investissent pas trop sur leur propre carrière ou en tout cas qu'ils ont du mal. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose, c'est une difficulté que tu as pu rencontrer quand tu as lancé cette activité par un freelance pour les freelances. Et également, on parle beaucoup aussi aujourd'hui de head tech, etc. Et dans cette idée-là, on dit que les business où il y a du coaching en perso sont très peu scalables. Donc, je vais parler plutôt en langage startup, etc. Mmh. pour une fois. Mais du coup, les gens se tournent plus vers de l'e-learning, etc. Est-ce que toi, tu t'es penché aussi sur cette partie un petit peu e-learning, bootcamp, où les gens peuvent apprendre en autonomie?
D'accord. Plus pour moi ou plus pour...
Pour Freelance Boost, est-ce que, du coup, le modèle économique, en fait, aujourd'hui, entre le fait que peut-être que les freelances ont un petit budget et le fait que, comme c'est du coaching en one-to-one, comment on scale le modèle, quoi?
OK. Alors, donc, en 2015, avec mon associé, on a lancé une formation en ligne et c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Mmh. Et à partir de 2018 ou 2019, c'est là où on a plus décidé de vendre du coaching. Okay. Et c'est vrai que quand on a commencé à vendre du coaching, je me suis rendu compte qu'on obtient des beaucoup plus gros résultats que quand on fait de la formation en ligne. Je me suis aussi rendu compte que certains gens, même certaines personnes, achetaient des formations qui pouvaient aller jusqu'à même 1000 euros. Il y en a même qui n'ont rien fait. Donc, le niveau d'engagement, ce n'est pas le même. Alors, il peut y avoir des résultats avec des formations en ligne, mais pour moi, l'accompagnement humain, il y a quand même une grosse différence. Il y a de la personnalisation, il y a aussi plus d'engagement. Aussi, il y a une séance de coaching et je vais leur dire, OK, pour la prochaine séance, tu fais ça.
Ouais.
T'es pas engagé de la même manière quand t'es tout seul devant ton écran. Après, il y a des formats, je dirais, hybrides avec formation en ligne plus accompagnement humain. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'ajuster les deux entre la formation en ligne et l'accompagnement humain. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus au coaching. Je fais pratiquement que ça. Mais c'est vrai que pour scaler, comme tu dis, donc faire grandir, je vais devoir remettre en place plus la formation en ligne et réussir à trouver pour que l'aspect formation en ligne soit plus, je dirais, intelligente, plus personnalisée et trouver justement ce bon équilibre-là. Donc, je vais de plus en plus me repencher dessus, mais sans perdre le côté personnalisation.
Ouais.
Voilà. Parce que ça, je l'ai assez vu, c'est des fois des formations qui donnent des méthodes qui sont les mêmes pour tout le monde et entre un graphiste, un développeur, entre une personne qui fait des missions très courtes, des missions longues, ce n'est pas exactement la même méthode. C'est les mêmes principes, mais il faut bien...
Ajuster.
Voilà, ajuster, c'est ça. Ouais. Et ça, voilà, aujourd'hui, je le vois vraiment en coaching individuel, c'est très important.
Ok, super intéressant.
Et tu nous as parlé là d'autre fois, effectivement, de ton partenaire Uriel Méniassan, je crois.
Oui.
Moi, ce que je voulais savoir, effectivement, c'est en tant que freelance, enfin, au tout début, est-ce que tu as senti la nécessité, effectivement, de t'associer? Enfin, est-ce que c'était naturel ou tu as cherché, effectivement, un partenaire pour t'associer parce que tu t'es dit que c'était plus simple, effectivement, d'être à deux? plutôt que voilà, de lancer quelque chose de ton côté?
Alors, dans les années 2013-2014, quand j'ai lancé Freelance Boost, à cette période-là, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent ou qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Stéphane Covey, ouais. Donc un gros best-seller pour tout ce qui est entrepreneuriat, développement personnel. Et dans le livre, il y avait un des principes, c'était justement le principe de la synergie. Donc c'est 1 plus 1 n'égale pas 2. 1 plus 1, ça fait plutôt 10, voire parfois 1000. C'est de mettre les forces de deux personnes ensemble. Ça produit quelque chose qui est plus que juste une addition. Il y a quelque chose qui se passe, ça peut faire des choses explosives. Et ça, voilà. Et du coup, quand j'ai compris ce principe-là, j'ai tout de suite essayé de chercher de m'entourer. Bon, j'ai peut-être, à ce moment-là, j'ai pas forcément bien fait, mais j'ai fait grossir assez vite une petite équipe. Et à ce moment-là, j'ai reconnecté avec Uriel, qui est en fait qui est le mari d'une amie d'enfance, en fait. Et en fait, quand on a discuté, je me suis dit, waouh, il est très fort. Et en plus, on est très complémentaires dans la manière d'aborder les choses. Et donc, il m'expliquait comment il travaillait. Je me suis dit, ouais, ce serait trop bien. Et à ce moment-là, je voulais écrire un e-book. Et j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on l'écrive ensemble? Et après, il a réfléchi 10 minutes. Il m'a dit, et du coup, on a écrit cet e-book qui existe encore. Ça s'appelle Le Freelance Cap. C-A-A-P. Mm-hmm. Voilà, on a créé cette méthode-là. Et c'était une expérience exceptionnelle. Et en fait, Uriel, on a travaillé 6 ans ensemble. Et j'ai énormément appris en travaillant avec lui. Et en revenant de mon année sabbatique, dans les années près de 2018, j'ai encore eu plus cette conviction qu'il faut que je travaille vraiment en équipe. C'est-à-dire qu'à l'époque, on travaillait un petit peu ensemble. Et là, je me suis dit, il faut qu'on travaille vraiment en équipe. Et là, je lui ai dit ça en revenant de mon année sabbatique. Et on s'est retrouvés à travailler vraiment, vraiment à fond ensemble. Et ça a été un des meilleurs choix de ma vie. Et donc, je voulais vraiment être dans une logique plus d'équipe. Et c'est aussi, moi, en fait, je me suis rendu compte que je suis un beaucoup meilleur chef d'orchestre qu'un homme orchestre. Vraiment. Et donc, j'aime beaucoup plus... Et en plus, co-chef orchestre, j'aime pas beaucoup trop forcément l'équipe, l'idée hiérarchique.
Ouais.
J'aime beaucoup le côté relationnel, un peu comme le collective great, où c'est justement, c'est une holicratie, je crois que c'est ça le terme.
Oui, c'est ça.
C'est en gros, tout le monde a un droit d'expression, et j'aime beaucoup cette idée-là. Et avec Uriel, voilà, ça a été, voilà, lui est vraiment, on est très complémentaires. Et en fait, il m'a énormément appris, et pareil, je pense que dans l'autre sens aussi, mais que ce soit le fait d'être complémentaire, le fait de faire les choses ensemble, on a vécu une croissance, on a appris tellement de choses ensemble, que voilà, je suis tellement heureux et aujourd'hui, je vais continuer. Aujourd'hui, en fait, nos chemins se sont séparés, lui s'est refocalisé sur la recherche d'emploi. On est toujours en très bon terme, voilà, c'est une question de saison de vie. Mais voilà, aujourd'hui, je cherche constamment à m'entourer d'autres personnes et voilà. Donc voilà, pour ça répond à...
Très bien. Bah oui, c'est super complet. Super.
Alors, moi, il y avait une autre question qui m'intéressait. Tu sais que nous, en tant que freelance, au bout d'un moment, effectivement, enfin, ce qui est bien, c'est qu'on peut être amené à choisir aussi les clients avec qui on veut travailler. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que toi, il t'arrive aussi de refuser des freelances que tu pourrais coacher, peut-être parce que tu te dis qu'ils ne vont pas être assez investis? Et qu'effectivement, après, ton coaching ne va pas donner les résultats que tu veux. Et quel est un peu la typologie de freelance que tu accompagnes?
Oui, ça m'est déjà arrivé que c'est cruel. Justement, on a déjà décidé parfois de refuser des personnes ou même de ne pas proposer notre accompagnement à certaines personnes. Alors, peut-être petite anecdote pour raconter un peu un principe, c'est que avant de venir découvrir le coaching, j'aidais des gens, mes amis, qui, certains ne voulaient pas être aidés. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas.
Ah oui.
Et en fait, ce que je comprends aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aider des gens qui sont extrêmement envie de changer, en fait, qui se rendent compte qu'ils sont à un point de blocage. Il y a une détermination, c'est le mot détermination, très forte pour que ça change. Donc en fait, ça, c'est le critère pratiquement numéro 1, c'est qu'il y a cette détermination-là. Si elle n'est pas là, déjà, le niveau d'accompagnement que je propose n'est pas du tout en adéquation. Parfois, je dis ça, moi, je propose un accompagnement qui est plutôt dans l'ordre de la transformation. Donc, il faut une très grosse envie, une détermination pour chercher un résultat, quand même, un plafond de verre qui saute, donc un gros investissement de temps, mais aussi un investissement financier qui va avec, voilà, et d'énergie. Et donc, s'il n'y a pas cette énergie-là, parfois, je dis, vaut mieux aller voir un coach qui propose un accompagnement qui va plus être adapté, peut-être à une petite motivation ou un petit changement. Ce qui n'est pas, je ne dénigre pas, il y a plusieurs types d'accompagnement. Voilà. Donc, ça, c'est. Et du coup, quand je ne vois pas cette détermination-là, je ne vais pas forcément proposer l'accompagnement. voilà. Après, il y a aussi une question de valeur, d'alignement. Parfois, quand je vois qu'on n'est pas vraiment... Moi, j'ai des valeurs parfois qui sont très fortes. Donc, je parlais de spiritualité, j'ai des valeurs très fortes par rapport à ça, par rapport à des principes. Et quand je sens que ce n'est pas forcément aligné, je préfère ne pas proposer. Et j'ai déjà refusé à l'époque, en tant que créateur de site web, des clients. Je vous donne un exemple. Hein, je crois que c'était Voici au public. Il y avait une opportunité de refaire leur site internet. Et j'aime pas trop... Voilà, c'est personnel, j'aime pas trop la mentalité derrière, et j'ai refusé. Alors c'était un très gros contrat. Et pareil avec des freelances, voilà, si je sens qu'il n'y a pas, on n'est pas aligné sur certaines choses, je vais même pas proposer ou je vais refuser. Ouais. Donc voilà, je trouve ça, et c'est quelque chose que j'enseigne aussi. Je pense que c'est très important pour les freelances de comprendre que ils doivent être sélectifs en fait. C'est pas s'il vous plaît, travaillez avec moi, c'est plutôt je travaille avec des gens qui ont tel critère et je ne travaille pas avec des gens. Même si tu débutes, tu peux déjà faire ça. C'est une question de posture. Mm-hmm. Tu as besoin d'avoir 100 000 clients pour faire ça.
Ouais.
Voilà.
et moi, j'aimerais bien rentrer un petit peu, justement, encore un peu plus dans le vif du sujet sur la partie commerciale, on va dire. Quelles sont les principales problématiques que tu vois chez les freelances que tu accompagnes sur la thématique du commercial, en fait? Quels sont les principaux problèmes qu'ils rencontrent au-delà peut-être de leur niveau de détermination qui me semble hyper important pour suivre un coaching et aussi pour être un bon commercial. Mais voilà, un petit peu, si tu as un petit feedback à nous faire sur ça.
Ouais. Alors, principale problématique. Alors, donc, c'est vrai qu'en pointe d'iceberg, on va parler de j'ai du mal à trouver des clients, j'ai du mal à prospecter ou j'ose pas. Et en fait, derrière ça, il y a des peurs. Et c'est souvent là le vrai problème. Par exemple, la peur de déranger, c'est quelque chose de très fort. Donc, moi déjà, j'aime pas trop le mot prospection parce qu'il y a une connotation très forte. On s'imagine la personne qui vient sonner chez toi, qui veut te vendre des tapis ou quoi que ce soit, ou le commercial qui va t'appeler sur ton téléphone parce qu'il a réussi à récupérer ton numéro de téléphone.
Et te vendre des box.
Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, moi, je n'utilise pas trop ce mot. Je préfère parler par exemple de création d'opportunités. Et en fait, donc il y a cette peur de déranger, donc beaucoup de gens en fait n'osent pas aller contacter d'autres personnes. Ça peut être contacter des potentiels clients, mais aussi des potentiels partenaires, donc contacter d'autres freelances, etc. Et en fait, moi je suis beaucoup dans cette idée-là, mais beaucoup sont bloqués juste au stade de j'ai peur de déranger. Et donc il y a vraiment ça, c'est quelque chose qui bloque énormément. Il y a ça, c'est un gros point. Et l'autre point sur la vente, c'est que souvent beaucoup dévalorisent leur prix, donc ils vont avoir des prix trop bas par rapport à la réelle valeur qu'ils apportent. Donc, c'est très lié à la confiance en soi, hein, mais aussi de la conscience de la valeur qu'on a. Souvent, il y a un manque de confiance, de conscience de sa valeur. C'est-à-dire qu'on pense apporter une petite valeur, mais en fait, souvent, elle est plus grande que ce qu'on imagine. Donc, moi, dans mon accompagnement, souvent, j'essaie de leur faire prendre conscience qu'ils apportent plus de valeur que ce qu'ils pensent. Mm-hmm. Et après, de gagner en confiance en soi, confiance en soi déjà en tant que personne, confiance dans son travail, pour après être à l'aise de proposer des prix à leur juste valeur. Et souvent, franchement, on peut... Bon, je vais pas abuser, mais parfois, on peut aller jusqu'à multiplier par deux les prix pour aller jusqu'à la réelle valeur, en fait. Mmh. Parfois même plus. Pas tout le temps autant. Hein. Des fois, ça peut être une question de 10, 20, 30, 40, 50%. Mais voilà, c'est un de mes champs de bataille, c'est de montrer aux indépendants qu'ils ont plus de valeur, qui je pense souvent qu'ils devraient plus facturer. Et ça les protégerait aussi plus, tu vois. Ça prend...
Plus de garantie, de stabilité dans les revenus, plus de visibilité, etc.
Ouais. Exactement.
Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti.
Présentiel ou digital?
Ah, présentiel à 2 millions de pourcents.
Twitter ou LinkedIn?
LinkedIn, ouais. J'étais très Twitter à l'époque, mais LinkedIn. Ouais.
Coaching ou spiritualité?
Ouh, c'est dur, ça. T'es obligé de trancher ou...
Tu peux nous faire un petit commentaire.
Je dirais les deux, parce que pour moi, les deux sont très liés, très complémentaires. J'ai du mal à trancher.
Merci, Jonathan.
Et justement, Jonathan, pour rebondir à ma dernière question qui est hyper intéressante, pourquoi justement avoir lancé un coaching de freelance en parallèle d'un site sur la spiritualité? Est-ce que pour toi, les deux sont complémentaires? Comment est-ce que les deux, enfin, comment est-ce que tu arrives à gérer les deux?
Ok, alors, en fait, le coaching, en fait, ça, je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle « Être coach » de Robert Dills, je crois. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de transformation. Et en fait, par exemple, le premier niveau, c'est l'environnement. C'est justement... entre travailler chez soi, aller au coworking, c'est l'environnement extérieur qui va influencer sur nous. Après, ça va être qu'est-ce que tu mets en place. Voilà. Après, plus on va aller profondément, on va arriver sur les croyances. Et plus on va intervenir à un niveau profond, plus l'impact va être grand. Si on travaille sur nos croyances, par exemple, j'ai l'impression que j'apporte ou je crois apporter peu de valeur, alors qu'en fait, c'est une fausse croyance. En fait, la vraie croyance, c'est que j'apporte énormément de valeur. Le changement, il est plus profond que juste des techniques, en fait. Mmh. Et derrière, en fait, il y a des résultats qui sont plus grands. Et plus on va profond, plus l'impact est grand. Et dans ce livre-là, il parle des différents niveaux. Et le niveau le plus élevé, c'est la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça va être relié à l'identité, c'est très profond. Et parfois, en coaching business, je suis arrivé parfois sur la notion presque d'identité. Donc, pourquoi est-ce que j'ai de la valeur ? Les gens n'avaient pas conscience de leur réelle valeur en tant que personne. Et j'ai dû travailler là-dessus plusieurs fois. Et du coup, on arrive vraiment vers la spiritualité. Et pour moi, la spiritualité, c'est le niveau le plus élevé. Et voilà, donc je suis très passionné par le développement personnel, mais je suis aussi très passionné par la spiritualité qui est en fait qui est justement le niveau de transformation le plus grand. Donc pour moi, en fait, c'est pour moi, c'est deux choses très complémentaires. C'est presque comme un pont. Et la première partie du pont, c'est pour moi le côté développement personnel et business, donc coaching. Et la deuxième partie du pont, c'est la partie spiritualité. Donc pour moi, c'est deux projets très complémentaires. Donc je suis très engagé sur les deux. Et c'est vraiment, pour moi, qu'on dit, c'est deux choses qui sont très, qui vont ensemble, en fait. Ouais. Donc voilà. Donc je disais que j'étais atypique. Donc c'est pour moi, c'est aussi atypique d'être sur deux projets, parce que c'est deux projets très challengeants où je suis très investi. Donc là, actuellement, sur le projet de spiritualité, je suis en train de créer une association. Mm-hmm. Donc, le projet s'appelle 16 Spiritualité. Et voilà, donc c'est l'entrepreneuriat, en fait, des deux côtés. Donc c'est, voilà. Dans ce cas, c'est très passionnant. Et ce que j'apprends de chaque côté sert aussi à l'autre côté. Donc c'est très, je parlais de synergie. Donc il y a une synergie, c'est très complémentaire. C'est très riche.
Il y a vraiment un aspect sur lequel je te retrouve vraiment, qui est un petit peu le fil conducteur, c'est l'aspect humain, en fait. C'est travailler sur l'humain, des rencontres humaines. Finalement, le commerce, c'est aussi être avec des gens, des vrais gens, s'intéresser vraiment à eux et être profondément dans leur esprit. Donc, c'est hyper passionnant comme sujet. Et c'est, effectivement, je trouve que ça va bien au-delà des techniques et des méthodes. Et justement, en fait, j'aimerais bien revenir sur un petit point qu'on a un petit peu abordé et que tu abordes souvent dans tes contenus, c'est la partie réseau, le pouvoir du réseau sur son business. Donc, on sait que c'est important de rencontrer d'autres personnes, de collaborer avec d'autres personnes. Mais en fait, comment on fait pour que ce réseau qu'on développe nous amène vraiment du business et nous serve ?
Ok, donc déjà, la première chose, c'est que, par exemple, tu vois, dans tout ce que je fais, j'utilise jamais le mot commerce ou tu vois, c'est ouais. Déjà, je viens pas de ce monde là et j'ai appris en fait. Au début, j'avais une image très négative du marketing et du commercial. Et quand justement j'ai réalisé que ça peut être juste finalement des relations humaines et que c'est s'intéresser aux autres, c'est là où ça m'a plu parce que comme je disais, je suis très relationnel, j'aime connecter avec les gens. Et finalement, aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est des choses très simples. Finalement, c'est un exemple, c'est que justement, je conseille aux personnes que j'accompagne souvent d'aller interviewer d'autres freelances qui sont peut-être plus avancés. Par exemple, là, actuellement, j'accompagne quelqu'un qui veut être très bon en copywriting. Et il va interviewer des très bons copywriters qui sont par exemple freelance. Et en faisant ça, déjà, de un, ce que les gens se rendent compte, c'est qu'ils ont la croyance que les gens ne vont pas répondre, ou très peu. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je suis prêt à t'accorder 15, 30 minutes. » Donc là, déjà, il y a une croyance qui saute. Et l'autre chose, c'est qu'ils repartent après un entretien avec plein de pépites d'or. Parce que tu as la personne en face de toi qui a déjà expérimenté, qui est avancé, qui est comme un mentor, en fait, qui a de l'avance par rapport à toi, qui est toi peut-être que ce que tu aimerais être dans quelques années, il te donne des erreurs à ne pas faire, ses meilleurs conseils, comment réussir dans le métier de copywriter, mais aussi en tant que freelance, etc. Et donc, par exemple, la personne que j'accompagne, elle a fait son premier entretien, elle en a plein d'autres planifiés, elle a déjà plein de pépites d'or qui vont lui servir. Et il est reparti d'entretien avec la possibilité de chacun de s'entraider. Lui va l'aider à faire des publicités Facebook et elle va l'aider sur son copywriting. Et moi, j'enseigne tout ça, c'est faire des prises de contact très simples, relationnelles. Bien souvent, ça marche mieux que ce qu'on imagine. On échange. La personne est ouverte, elle est généreuse. C'est souvent plus que ce qu'on imagine. Bah, tout le monde est beaucoup, je trouve, en tout cas, dans le monde freelance. Et à la fin, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire l'un envers l'autre pour s'entraider. Et du coup, on va plus loin dans la relation. On n'est pas juste, on échange, après c'est fini. Ça n'arrive pas tout le temps, mais l'idée, c'est d'être proactif, de le proposer. Et en fait, si on le fait, bah, ça permet d'aller à un autre niveau. Et naturellement, quand on l'a fait, quand on s'est entraidé, ben finalement, on va se recommander parce qu'on a vu comment l'autre travaille. Et si ça se passe bien, ben, si la personne après, a besoin d'une publicité Facebook pour un client, etc., elle va dire, ben, je fais appel à toi. Ben, donc, finalement, c'est très simple. Mais encore une fois, il y a beaucoup de blocages dans la tête. C'est ça où je travaille en session de coaching. Et finalement, c'est pas plus compliqué que ça.
Ouais. Voilà. Du coup, je rebondis sur ce côté du coup réseau. C'est vrai que bon, nous, à la Collab, on a un petit programme d'incubation qui s'appelle Neolab. Et l'une des premières choses que je dis aux freelance, c'est que quand on se lance, il faut activer son premier réseau. Donc, son cercle proche, ses amis, sa famille, etc. Mais c'est pas simplement dire furtivement dans un repas de famille, ça y est, je me lance en freelance, en marketing et communication. Personne n'entend, quoi. C'est vraiment leur dire, voilà, moi, je vais faire ça, je vais accompagner les entreprises en faisant ça, en expliquant, en prenant le temps d'expliquer. Et surtout, leur dire, ne pas avoir peur de demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes services ou me mettre en relation avec ce type de personne? J'en ai vraiment besoin, ça m'aiderait. C'est pas une honte, on démarre une carrière, etc. Et c'est vrai que, notamment pour les personnes qui ont fait du salariat avant, c'est souvent une barrière qu'ils ont parce qu'ils se disent, ah ouais, mais si je demande de l'aide, on va croire que ben, j'ai pas de clients, etc. Ça va être vu péjorativement. Alors que non, c'est simplement la vie. Et les gens sont super contents de se rendre utile. Mmh. Par contre, si on pose pas la question, je trouve que les gens n'y pensent pas spontanément à essayer de nous aider. Bon, voilà, c'est pour rebondir un petit peu ce que tu as dit.
Totalement d'accord.
Et du coup, par rapport à tous ces coachings que tu fais, je pense que tu as vu plein de choses. Moi, j'aimerais bien revenir sur peut-être la pire erreur à ne pas commettre quand on est freelance. Tu as une anecdote pour illustrer ou voilà, si tu as peut-être une pire erreur, moi, ça m'intéresse.
Alors, une pire erreur, je pense qu'il y en a plein, mais je dirais que la pire, c'est très lié à tout ce qu'on échange aujourd'hui, c'est de rester tout seul. Alors, je partage un peu ma philosophie derrière tout ça, c'est qu'on parle d'indépendant. Et c'est vrai qu'on est indépendant d'une certaine manière, d'un patron, etc. Mais en fait, le mot indépendant, pour moi, il est incomplet parce que pour moi, on devrait plutôt être dans l'interdépendance. Ça veut dire qu'on est indépendant, pas besoin de patron. Par contre, on a besoin les uns des autres, comme un collectif ou tout simplement son propre réseau. Mais on a besoin de s'entraider. On a besoin, en fait, des uns des autres. Donc, on n'est pas si dépendant les uns des autres. On n'est pas si indépendant. On a une certaine indépendance. On a bien sûr une liberté. On peut choisir les personnes avec qui on peut travailler, donc là, il y a une indépendance. Mais moi, voilà, c'est... Donc, rester seul, j'en ai connu des gens qui restent tout seuls dans leur grotte, chez eux, et si ça marche, tant mieux, peut-être que ça s'appuie sur leurs 3-4 premiers contacts, mais ça peut vite s'épuiser. Et j'ai rencontré des gens qui, après 10 ans, ça a dit, ah, maintenant, ça marche. Ça marchait pendant 10 ans, maintenant, ça marche plus trop, parce qu'ils sont restés dans leur grotte. Donc, moi, l'erreur de ne pas commettre, c'est ne pas rester seul. Ouais. Et donc, forcément, le conseil, c'est rencontrer un max de gens. Sortez de votre grotte, voilà, vous pouvez aller travailler avec un autre freelance, une journée ensemble, coworking. Il y a plein de manières, en fait, des événements. Voilà, donc voilà, ça, c'est vraiment la pire erreur.
Alors nous, au bal, c'est vrai qu'on aime bien passer les messages en musique aussi. Je voulais savoir si tu avais une musique en particulier que tu souhaiterais demander au DJ.
Faut que je réfléchisse, c'est quoi? Faut que je danse dessus, c'est ça?
Non, pas besoin de danser, juste nous la dire. Ça sera les auditeurs qui danseront chez eux. Ils pourront nous envoyer des selfies, des stories sur Instagram s'ils veulent.
Bah, ça dépend. Alors, j'ai des musiques en mode concentration que je mets pour moi ou pour mes en coaching. Bah, je peux vous donner une que je mets plus en type concentration, que je mets pour moi ou pour en coaching. C'est quelqu'un que je connais en fait, c'est un ami, il s'appelle Raphaël Varzecha. Et c'est juste des musiques très longues, en fait, juste de instrumentales. Et moi, pour me concentrer et parfois proposer des exercices de coaching, où je laisse la personne faire un exercice, je mets cette musique.
Super, on écoute ça. Une des dernières questions que j'ai envie de te poser, Jonathan, c'est plus de l'ordre du conseil. Quel conseil tu donnes à quelqu'un qui se lance? Et est-ce que c'est nécessairement le même qu'à une personne qui est déjà lancée depuis longtemps, mais qui a un petit coup de mou dans son activité et qui a besoin de relancer? Est-ce que c'est le même cas de figure ou quelles sont peut-être les différences?
Alors, Pour une personne qui se lance, je dirais très vite aller chercher des conseils auprès de personnes expérimentées. Je précise bien expérimentées pour vraiment gagner vraiment du temps. Voilà, ne pas vraiment essayer de s'entourer au mieux. Et je dirais ne pas hésiter aussi à être accompagné en manière rémunérée. Je dirais de payer une personne pour être accompagné. Plus vite on le fait, plus on comprend la notion d'investir en soi et dans son activité. Et franchement, quand on se lance, on gagne énormément de temps. Mais une personne qui est déjà en freelance, alors tout dépend ce qu'elle a déjà fait pour être conseillée et accompagnée. Et moi, je dirais la même chose. Je pense que vraiment, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, pour moi, je trouve que c'est en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a constamment besoin d'être challengé. Et moi, je parle souvent de l'effet miroir. C'est que quand on est seul, c'est très difficile de voir ses angles morts, de voir ses failles, de voir ses points faibles, de voir... Moi-même, j'ai ce problème-là et j'ai constamment besoin d'un miroir. J'ai un business mentor, j'ai plusieurs coachs. En fonction des besoins, j'ai différentes personnes. Mais voilà, pour moi, c'est très important d'avoir ce miroir ou ces miroirs, en fait, dans le domaine, qui vont nous renvoyer en fait, la bonne image ou une meilleure image de nous-mêmes pour nous dire où progresser, nous challenger, etc. Donc, moi, j'appelle ça presque l'écosystème relationnel. C'est comment construire quelque chose autour de nous relationnellement qui va nous faire constamment grandir, progresser. Alors pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante.
Top.
Et pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais une citation, un mantra qui t'aide un petit peu au quotidien et que tu veux bien partager avec nous?
Alors dans ma signature, on peut voir une citation qui est « Tout est possible à celui qui croit ». Et voilà, moi, je suis vraiment beaucoup dans la logique où justement, ne pas trop se mettre de limites, de barrières, qu'on a des rêves, des aspirations, des valeurs, juste qu'on a envie d'apporter aux autres, à ce monde, de ne pas trop se mettre de limites et d'y aller. Donc, tout est possible, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'incarner et de transmettre. Et voilà, c'est en tout cas, ça me booste à fond.
On a beaucoup parlé en fait, de croyances finalement, donc c'est encore une fois travailler sur ses croyances pour lever toutes les barrières et aller vers l'impossible et l'au-delà. Ok, Jonathan, c'était vraiment très riche comme interview. Je suis ravie. Je pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier ta vision et ça va les aider à prendre peut-être un peu de hauteur et de recul et peut-être leur donner envie de reprendre contact avec toi et suivre tous tes contenus. Justement, du coup, où c'est qu'on peut te suivre, reprendre contact avec toi et rester en contact.
Alors, on peut aller sur freelanceboost.fr, donc s'inscrire sur la newsletter, soit si vous me contactez directement, je répondrai avec plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn, pareil, c'est un plaisir, et n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai aussi avec plaisir. Voilà, après, je suis surtout actif là, sur les autres réseaux, vous pouvez aussi essayer, je suis un peu moins réactif, je suis aussi présent là sur Instagram, Twitter. Je suis pas très réseaux sociaux, les gens. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment au plaisir si vous me contactez. Ce serait un plaisir pour vous.
Super, merci beaucoup, Jonathan. Merci, Natacha, aussi d'être prêtée à l'exercice de ce podcast participatif. Et je vous dis à très bientôt à tous les deux pour de nouvelles aventures.
Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Enfin, je pense que vous pouvez déjà vous remercier vous-même puisque je suis sûre que cet épisode vous a donné l'énergie, les conseils, les tips pratiques pour demain être le meilleur commercial pour votre activité d'indépendant. Et puis même, si vous n'êtes pas encore passé à l'action et que vous n'êtes pas encore indépendant, je pense que cet épisode peut vous donner de belles idées, que ce soit si vous êtes commercial actuellement ou que ce soit pour devenir plus tard indépendant. Je souhaite aussi remercier Jonathan pour sa générosité dans ses conseils. Je vous invite vivement à le suivre et si vous voulez aller plus loin, il a des formations et des contenus qui sont incroyables. Bravo à Natacha également qui m'a bien aidée sur cet épisode et sur la préparation et aussi sur toute l'interview. J'ai hâte de découvrir ses prochains podcasts avec vous sur le bal local. Je vous invite à continuer la discussion. Partagez vos bons conseils, vos méthodes, vos retours d'expérience directement sur notre Instagram bal.local. Et si cet épisode vous a plu ou que vous adorez le podcast Bal Local, je vous invite à vous rendre sur Apple Podcast pour nous laisser 5 étoiles. C'est un petit peu de temps pour vous, mais c'est beaucoup pour nous puisque ça permet vraiment de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi le partager, en parler à vos amis. Tout ça nous aidera beaucoup et ça motivera les chefs d'orchestre à enregistrer les prochains épisodes. Je vous remercie pour votre fidélité. À très vite. C'était Laura en direct du bal local.